Salut, bonsoir, bon début de semaine. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé un super de beau week-end. Chose sûre, nous, on passera une super de belle soirée puisqu'on la débute avec Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Salut, Jérôme.
Salut, Marceau.
Merci d'être là.
Un plaisir.
Pensais que tu étais au Mexique encore?
Ben non. Bon. Mais beaucoup de gens le pensent, mais je suis retourné 2 mois et demi quand même récemment. Là.
Ouais.
Mais je suis revenu.
Puis est-ce que tu as obtenu,
cette fois-là, je suis revenu.
Est-ce que tu as obtenu ta citoyenneté mexicaine?
Non, j'ai déjà été résident temporaire ou là, il faudrait que ce soit renouvelé.
Ouais.
J'ai ici à paperasse. Moi, ma femme le sait, là, je ne suis pas un gars de paperasse.
Okay.
J'ai la difficulté à renouveler ma carte d'assurance maladie. Là, c'est un dossier qui traîne sur mon bureau. Disons que j'ai beaucoup de choses à faire aussi, je suis très occupé, tu le sais, avec Libre Média, tout ça, mais je suis pas un gars de paperasse. Donc, mais ça va être à faire.
Mais, est-ce que c'est compliqué d'avoir une citoyenneté mexicaine?
Citoyenneté, c'est l'autre étape quand même. Moi, ça part bien parce que je suis marié avec une Mexicaine.
Ouais.
Donc, je pourrais l'avoir facilement. Puis la résidence, je l'ai eu facilement. Mais la citoyenneté, c'est la dernière étape là, qui te permet de voter. Donc, je pense que c'est quand même plus complexe que la simple résidence. Puis pour les gens, pour les auditeurs qui voudraient s'établir au Mexique, je pense que pour ceux qui n'ont pas de lien de mariage, il faut quand même débourser quelque chose. Là, où... Puis je pense qu'il y a des endroits où c'est plus facile, c'est-à-dire des points de service là,
ouais.
Où c'est plus facile de rentrer. Puis mais je pense que ça prend comme... faut débourser quelque chose, puis ça amène un peu... Bon, ça contribue à l'économie locale ou... Enfin.
OK. Parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'actuellement, là, la Floride, ça commence à ne plus être la destination de choix pour les gens qui voulaient être
ouais.
pré-retraite ou retraite. Puis on me dit que ça merge vers le Mexique actuellement.
Oui, puis il y avait un article au Journal de Montréal, hein, je pense, qui faisait état de ça, le Mexique, la nouvelle Floride. Ça se peut. Moi, j'ai pas fréquenté beaucoup les communautés d'expatriés là, sur les bords de mer. T'sais, j'étais à Mexico. Je les répète souvent pour l'expliquer aux gens que je n'étais pas à la plage en train de boire de la bière. Ça m'arrivait de travailler là-bas. J'ai évidemment profité à quelques reprises, évidemment, de Huatulco, 2 fois quand même, Acapulco, etc. J'aime beaucoup la baie d'Acapulco. Ça a mal vieilli, Acapulco, parce qu'on sait maintenant c'est considéré comme dangereux.
Acapulco, ah ouais?
Ouais, mais la baie est vraiment magnifique.
Parce que dans les années 80, là, Acapulco, tout le monde allait là.
Oui, mais maintenant c'est ça. La route est dangereuse, en tout cas. Les gens ils vont en avion là, depuis le Canada, mais c'est plus la première... c'est pas prisé comme autrefois. Maintenant, ben c'est... évidemment Puerto Vallarta, très connu, dans Cancun, Mérida aussi qui se développe beaucoup. Mérida, c'est comme peut-être le prochain Cancun qui n'est pas très loin là, dans le même état. Ça, c'est le fun de Mérida parce que c'est un volet un peu historique. Donc, alors que Cancun, c'est quand même un peu le Las Vegas balnéaire,
ouais.
Là, c'est très, très américanisé. Mais pourquoi on dit ça? Parce que on parlait du Mexique.
Non, parce que je pensais que tu étais au Mexique. Ça disait non, je suis à Québec et je vais aller te voir dans les studios.
Ah oui, c'est ça, le nouveau Mexique. C'est ça, on disait que le Mexique, c'est la nouvelle Floride.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Puis il y a beaucoup des Québécois qui vendent. Ils sont spécialistes, évidemment, de l'immobilier là-bas. Puis il y a des belles choses. Là.
Ta conjointe, a commencé à s'y faire avec le climat au Québec?
Oui. C'est graduel. C'est sûr que, tu sais, il a fait nous réadapter à le calme, tu sais, ambiant. T'es juste le silence. T'es Mexico puis versus Québec.
Ça bouge moins.
Des fois, je suis ici, je me dis, y a-tu au moins une alarme une sirène de police qui va partir, de pompiers, quelque chose, d'ambulance?
Ça m'a fait ça. Ça a été anxiogène un peu. Là, tu vas me dire, ouais, Marceau, t'es à Québec. Là, c'est pas Times Square, sacrément. Mais je m'étais acheté une maison. Ma première maison, c'était à Lévis. Puis c'était sur un coin de rue. Puis j'entendais toujours les moteurs révolutionner pour arriver au stop, après ça, repartir. Tu sais. Puis je m'étais habitué à ce son-là. Puis ta chambre, tu dors dans ta chambre, t'entends les voitures passer dans la rue. Puis quand j'ai été m'établir en Beauce avec la même conjointe, la première nuit, là, ça a été anxiogène. Là. Je me suis dit, hein, j'entends à rien.
Non, c'est vrai. Ça fait comme... c'est un manque.
Oui.
Fait que,
mais là, elle trouve que ça bouge pas assez. OK.
Bon, mais ça va bien. Écoute, c'est une société sécuritaire où... Puis bon, il y a ma fille qui profite de ses grands-parents. Non, on est content. C'est, pour l'instant, c'est une période québécoise. Peut-être qu'un jour, on retournera, ou peut-être en France aussi un jour, peut-être.
Ah, tu fermes pas la porte à la France?
Pas totalement, non. Paris, j'aime beaucoup. Tu sais, je suis quand même aussi, j'ai mon réseau aussi là-bas, à Paris. Fait que...
Mais pour Libre Média, c'est un gros marché.
Oui, sur YouTube, ben, regarde-toi, on a 90%, peut-être 80% en fait de public français sur YouTube, notre chaîne YouTube. Alors que sur notre site Internet, c'est plus des Québécois, les lecteurs québécois. Ça se mélange, mais oui, effectivement, on fait des entrevues régulièrement avec des vedettes, là, finalement, françaises du monde politique ou intellectuel, des journalistes. Donc, je te disais tantôt, en coulisses d'entrevues, je te parlais de Sud Radio. Bon, des fois, je vais là, à Sud Radio, avec André Bercoff. Toujours une expérience. C'est un autre monde, évidemment, Paris.
Mais Bercoff, c'est une superstar.
Oui, oui, oui. Non, mais j'aime la France, je suis très francophile. Puis non, je n'aime pas la porte non plus à la France. Fait que, tu sais, moi, j'ai deux axes, dans le fond. Là, c'est la France, puis le Mexique. Mais puis entre les deux, ben, y a le Québec.
Il y a le Québec. OK. Puis Libre Média, comment ça va? Ça fait déjà plus qu'un an que tu es à la tête de cette belle entreprise-là?
Oui, ça fait deux ans. J'ai pas toujours été directeur général, là, par contre. Mais ça va bien. Écoute, la seule chose, je l'ai déjà dit dans d'autres tribunes, sur d'autres tribunes, c'est que depuis la fermeture de notre page Facebook, avec la fameuse loi là, C-18, c'est ça, la loi fédérale, tous les médias canadiens maintenant sont bloqués finalement de Facebook, puis on avait quand même 35 000 abonnés. On a toujours 35 000 abonnés. Donc ça a créé une sorte, ça a ralenti, si tu veux, notre croissance. Puis, de toute façon, c'est une start-up. T'sais, moi, je n'ai jamais pensé que ce serait facile non plus de monter une entreprise. Donc vraiment, c'est énormément d'efforts en continu, pas de vacances. En plus nous, comme toi, on est dans le monde de l'actualité, donc l'actualité ne prend pas de vacances, donc forcément, il faut toujours être... On est toujours en réaction, finalement, à des événements.
Ouais.
Donc, c'est un peu essoufflant, mais ça va bien. Regarde, on a publié un reportage sur le Grand Prix qui est presque viral sur X et sur YouTube. Je pense qu'on doit être rendu à 15 000 visionnements en moins de 24 heures.
Ouais. On va en parler, d'ailleurs. Moi, ce que j'aime beaucoup de Libre Média, c'est la diversité des sujets, les opinions aussi, diversité des opinions. On aime bien les quotidiens là, ici qu'on a régulièrement, mais il manque tellement de sujets. Des fois, tu te disais un peu, comment on peut faire abstraction de ce sujet-là alors que ça a fait partie de nos vies pendant des mois et des mois, si c'est pas des années. On va en parler tantôt. Dr Fauci qui avoue que... certaines règles qu'il avait mises en place, la distanciation sociale de 2 mètres, les masques et tout ça, c'était tout dans sa tête. C'est particulier. Puis pourtant, j'ai pas vu ça dans les quotidiens, mais on l'a vu passer dans Libre Média, puis je trouvais ça franchement intéressant que vous en parliez. Commençons avec un article, justement, qui est disponible sur Libre Média, l'intervention des préventionnistes là, du service des incendies de Montréal durant le Grand Prix. Hallucinant de voir ça. Est-ce que ça aurait pu se faire 2 jours avant? Je pense que oui. Est-ce que ça aurait pu se faire 2 jours après? Je pense que oui. J'ai l'impression qu'on tente de faire passer un message.
Un exemple. Ils ont voulu faire un exemple.
Ouais.
Donc, ils ont profité, du momentum, forcément, du Grand Prix pour se mettre en scène. Là. C'est clair que c'est prémédité et qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait un certain écho dans les médias. Je peux pas croire. Bon, après, peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que la vidéo de Mme Ferreira soit si virale. Je pense qu'elle est rendue à 2 millions de visionnements. Nous, on a eu Mme Ferreira en entrevue, justement, à Libre Média, quelques heures après la publication de sa fameuse vidéo. Mais effectivement, t'sais, on est devant des espèces de brigades puritaine là ou des espèces de nouvelles ligues de la tempérance qui débarquent. C'est assez incroyable, là, Marceau. Je sais pas si tu te rappelles. On n'est pas exactement dans la même génération, là, mais quand il y avait des paniers à salade, puis venaient chercher des mineurs dans des bars là, au Palladium.
Oui. Palladium, la relève. Dagobert, je me souviens d'avoir vu ça aussi.
Bon, ça avait l'air de ça, mais pour des touristes. On a un service de police, en tout cas de prévention de ci, de ça, là, qui s'est pas gêné, qui n'a pas hésité à expulser de nombreux touristes comme des mineurs pincés dans une discothèque un peu trop tard. Déjà, pour l'image de Montréal, c'est incroyable.
Ouais. Allez voir le reportage de Libre Média sur ce sujet-là. Ce qui est important pour les gens qui n'ont pas suivi en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense que vous avez entendu parler qu'il y avait le Grand Prix, mais dans les rues de Montréal, c'était très festif. Il y a des gens qui étaient attablés, que ce soit à l'intérieur des restaurants ou encore sur les terrasses. Et dans ce cas-ci, c'était sur des terrasses qu'on considérait à la ville comme étant problématiques. Il y avait, à certains endroits, c'était des chapiteaux. À d'autres endroits, c'était des marquises. À d'autres endroits, c'était portait un genre de parasol. Puis ce qui semblait déranger les préventionnistes, c'est les fameuses marquises qui n'étaient pas réglementaires, qui étaient trop près de la bâtisse, puis que là, ben eux, ils jugeaient qu'il y avait peut-être des dangers d'incendie. Donc, ils ont décidé...
C'est l'argument de la sécurité. Là.
Ils ont décidé d'agir sur plusieurs terrasses et ils ont complètement vidé les terrasses avec l'assistance des policiers
pendant que
tout le monde était en train de manger, là.
Mais non, d'abord pour l'image, c'est incroyable, c'est extrêmement gênant. Puis ça traduit quelque chose, c'est-à-dire que depuis la pandémie, il y a une sorte de surenchère de ce que j'appelle le réglementarisme, c'est-à-dire qu'on met des règles partout. On a besoin, on dirait, d'encadrer la société, de quadriller le territoire. Et on dirait qu'il n'y a plus un seul détail qui échappe, on peut dire, au regard de l'État. Puis ça se traduit au municipal, puis on le sait que le municipal... est investi par des groupes radicaux dans le sens où on fait beaucoup d'ingénierie sociale au nom de l'environnement. Ça, on le voit un peu aussi à Québec. Bon, certains projets sont bien, d'autres sont moins bien. Mais à Montréal, c'est rendu chaotique, là. C'est un enfer réglementaire. Ça asphyxie l'économie. Et même les gens qui, peut-être, eux, ont voté Valérie Plante il y a quelques années, eux-mêmes sont en train, évidemment, de le regretter. Parce que, l'économie, c'est quand même fondamental. Tu peux pas dire du jour au lendemain que la moitié de la ville, finalement, est paralysée. Et l'argument, regarde, tu vois, Mme Ferreira, c'est de dire on accuse, finalement, mon restaurant de ne pas être sécuritaire en cas d'arrivée des pompiers, mais les pompiers ne peuvent même pas circuler dans la rue tellement il y a d'entraves, d'obstacles, de cônes, de grilles, de grillages. Il faut voir les images du reportage, là, c'est-à-dire c'est incroyable, là. Les gens marchent dans des grillages quasiment, là, parce que tellement c'est obstrué. Donc comment le camion de pompier peut-il passer dans la rue pour venir arroser mon restaurant en cas d'incendie? C'est impossible. Donc t'sais, on est quand même dans un monde qui est tout à fait incohérent. Et c'est ça, c'est la surenchère des règles. Toujours plus de règles pour donner l'impression qu'on contrôle. C'est une espèce de philosophie du contrôle qu'on a embrassé depuis la pandémie.
La mairesse parle d'un manque de communication, puis elle s'excuse
non.
ce qui s'est passé, mais il y avait un message qui est envoyé.
Un message.
Puis je me pose tout le temps cette question-là, Jérôme. Tu sais, moi, j'ai eu des grands-pères qui étaient policiers, qui me parlaient de leur carrière lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils débutaient leur carrière, puis comment c'était dans le temps. Puis ils faisaient toujours preuve de gros bon sens quand il y avait une bagarre dans les bars, plutôt que de passer les menottes, les accuser d'avoir fait telle affaire. Ils allaient reconduire le gars à maison. Quand ils justifiaient que ça avait un peu plus de sens d'aller le reconduire à la maison parce qu'il y avait trop bu, versus l'amener à la centrale de police, lui faire remplir des papiers, la photo, les empreintes, merci, bonsoir. Aujourd'hui, on dirait que les individus qui travaillent pour l'État sont plus capables de voir une partie de leur cerveau qui disent « ça a-tu du bon sens ce qu'on me demande de faire? » Puis est-ce que je pourrais peut-être faire autrement? On dirait qu'on veut faire respecter les trucs à la règle parce qu'on a peut-être peur de perdre notre emploi, mais sur la vingtaine de personnes qui étaient là, Jérôme, tu avais les préventionnistes qui étaient là, puis tu avais les policiers. Il n'y a pas un dans la gang qui a dit « Hey, c'est le grand prix, là. On peut-tu juste les laisser finir de manger? Mm-hmm. » Puis après ça, jaser avec le propriétaire puis le restaurant puis dire « Regardez, si vous ne réglez pas ça demain, on vous le dit, là, vous ouvrez pas. »
Non, c'est faire exprès. C'est planifié, là. C'était planifié. Et Valérie Plante...
Aurais-tu fait ça pendant les Francofolies ou au Festival de jazz?
Non, parce que c'est plus politiquement correct. Tu vois, c'est sûr que le Grand Prix, on le voit, est devenu une espèce de symbole du mal absolu, là. C'est-à-dire, bon, ça représente tout ce qu'on déteste actuellement là, dans les mouvements politiquement corrects. C'est-à-dire d'abord, la question de la prostitution, c'est vrai que c'est déplorable, puis le marché de la prostitution est honteux à longueur d'année, soit dit en passant.
C'est pas juste la F1.
C'est ça. Donc, puis soit la F1, d'autres événements, là, il y aurait d'autres grands concerts où, tu sais, je pense pas. Il faudrait vérifier. Je pense qu'effectivement, comme le disent des criminologues comme Mariam Mourani, il y a effectivement un achalandage plus élevé, une demande plus élevée pour des prostituées durant le Grand Prix. C'est comme le pic, là. Mais je la connais, Mariam Mourani, mais C'est-à-dire, c'est comme interdire les casinos, là, quand même bien que vous les interdisez, probablement qu'il va y avoir de la clandestinité. C'est pas simple. Je pense que s'attaquer à la prostitution à travers le Grand Prix, je trouve que c'est un peu un raccourci. Je pense qu'on peut s'attaquer aux proxénètes sans abolir le Grand Prix, pour le dire simplement. Donc, le Grand Prix, c'est devenu le symbole bon, du capitalisme, le luxe, bon, les jets privés. Le symbole de la pollution, parce que les véhicules à gaz, à pétrole, on sait, bon, il faut plus en avoir, il faudrait que ce soit des F1 électriques. C'est ça, les femmes, l'environnement, bon, bref, c'est le symbole du mal.
Tout ce que la gauche déteste.
C'est ça, en gros, gars. Simplement, là, donc. Donc, c'est ça. Est-ce que si c'était un événement, genre le défilé de la fierté la fierté gay, je pense pas qu'il y aurait ce genre de descente.
Ça serait jamais fait. Là.
Mais non, c'est ça, imagine. Hein, ça serait scandaleux.
Ouais.
Mais ça serait vraiment scandaleux.
Donc, mais on explique ça comment? T'sais, j'essaie de répondre à cette question-là. Là. Je fais partie de la vingtaine de personnes, Jérôme, qui est avec les préventionnistes et les policiers. Là. Puis là, le préventionniste dit non, oh, regarde, il est 21h, on ferme ce restaurant-là. Ouais, ben t'as peu, c'est quoi tu crains? Ben, des fois, il peut y avoir des dangers d'incendie. OK. Ben écoute, on est quoi? On est 17, on est 20. Il y a 4 terrasses à fermer. On peut se mettre, mettons, 5 par terrasse, puis surveiller que le feu ne pogne pas. Puis ce soir, ben, on dit au propriétaire, si tu ne changes pas ça demain, tu sais, je reviens avec ça. Pourquoi il n'y en a pas un qui s'est levé en disant, ce qu'on fait là, ça n'a pas de maudit bon sens? On n'est plus capable d'utiliser notre bon sens. On se fait donner des ordres en haut, puis on le fait. Tu sais, j'ai plein d'exemples dans ma tête que je pourrais te dire, mais les gens diraient, vous êtes complètement fous de donner cette image-là. Je le ferai pas. Mais on fait des affaires qu'on sait foncièrement mal, mais parce qu'on nous demande de le faire, on le fait.
Mm-hmm. Mais c'est comme s'ils justifiaient leur propre poste. C'est-à-dire, d'abord, quand on écoute le témoignage de Mme Ferreira dans notre reportage, qu'il faut aller voir, c'est elle décrit des gens qui, dès le moment où ils mettent le pied dans le restaurant, savent très bien ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils sont préparés mentalement à confronter le personnel du restaurant.
Il n'y a pas de négociation
possible. Ils étaient déterminés à... C'était soit la terrasse... ou soit ils évacuaient l'entièreté du restaurant. Donc, dès qu'ils sont rentrés, ils savaient qu'ils étaient là pour interdire quelque chose et qu'ils n'allaient pas avoir de compromis ou quoi que ce soit. Donc, déjà, tu te dis, waouh, une vraie brigade qui arrive déterminée comme ça, c'est quand même étrange, quand même. Là. C'est pas comme si c'était un restaurant de la mafia italienne. Là. D'abord, c'est un restaurant portugais, puis les restaurants italiens ont le droit aussi d'exister. Mais tu sais, ils sont traités comme des criminels, finalement.
Ouais.
La restauratrice est traitée publiquement devant des touristes, devant plein de monde, comme une criminelle parce qu'elle a essayé de se conformer au règlement dans un contexte de chaos où, comme je le répète, échafaudages partout. Les images sont incroyables. Ouais. Même que les gens sont bons pour aller encore au Grand Prix parce que circuler avec autant d'entraves, c'est pas agréable. C'est donc, vraiment, les gens, tu sais, qui étaient motivés par le Grand Prix, parce que dans ces artères-là, c'est carrément un bordel.
Ouais. J'entendais les restaurateurs dire, regarde, l'argent, mais l'argent, c'est pas tout. On va être capable de se refaire sur plusieurs années, mais c'est l'image de Montréal.
Ben
l'image
oui.
de Montréal qui est entachée parce que c'est des gens qui proviennent de partout dans le monde, qui arrivent ici, t'es en train de manger à 21h, puis ils se font vider à terrasse par des gens qui sont armés. Là. Les policiers sont armés.
Ah ben oui. Non, mais écoute, c'est scandaleux, là. Quel déclin,
ça arrive en Russie, tu dis, ben garde.
Mais ça arrive pas en Russie, ça arrive pas à Mexico, puis ça arrive pas dans ces villes-là, ben non. Mais surtout pas, moi, je vais même pas voir ça à Istanbul pour de l'alcool. Là. Même dans un pays musulman, je suis même pas sûr que le monde débarque parce qu'ils ont pris de la bière alors que c'est le ramadan. Là. Bon, c'est arrivé dans des pays avec des gouvernements islamistes. Mais c'est une scène qui carrément qu'on voit dans des pays autoritaires. Faut être clair, c'est n'importe quoi là. Il me semble que une brigade de la pureté sécuritaire ou appelle ça comme tu veux, qui débarque bien déterminée. Et peut-être que ces gens-là, ben, pour te répondre, ils veulent se sentir utiles. Peut-être qu'ils se sentent pas très utiles finalement et que tout d'un coup, à nous, on a un rôle puis on sert à quelque chose dans la société.
Ben, c'est souvent des gens qui sont incapables de gérer le pouvoir qu'on leur met dans les mains. Là.
Mais c'est inquiétant parce que tu sais, si on avait des. Si on dans un contexte de guerre où on a affaire à des gens qui ont peu de jugement finalement.
Exact.
Donc, mais juste rapportons-nous à la pandémie, tu sais, bon, comment ces gens-là auraient traité des gens qui n'auraient pas été vaccinés, par exemple, si eux, ils se sentent investis de cette mission-là de faire respecter le règlement, tu sais, avec un groupe social qui serait discriminé. tu sais, comment ils se comporteraient avec un groupe social qui est discriminé.
Il aurait rouvert une ville là, dans le nord, puis tous les non-vaccinés auraient été envoyés dans cette fameuse ville-là. Ça a déjà été proposé,
d'ailleurs. Oui, par un chroniqueur connu, là, bien connu. Donc, enfin, bref, je trouve ça inquiétant, puis je trouve ça, c'est ça. Comme je l'ai dit dans mon éditorial d'aujourd'hui à Libre Média, ben, c'est comme, j'appelle ça une réglocratie, le Québec, c'est-à-dire une espèce de gouvernement, mais par les règles, ou, tu sais, l'obsession des règles, vraiment. On aime tellement ça, les règles au Québec. Tu sais, la chanteuse country l'avait dit, là, sur la pandémie.
J'aime ça que le gouvernement soit là, parce que ça m'empêche de réfléchir.
Exactement. Donc, l'application gratuite, bête et gratuite, des règles, et en plus, ça a l'air de nourrir une sorte de jalousie malsaine chez certains gens en population. Il y a des gens qui, ces réseaux sociaux, il y a Marceau, défendre bec et ongle, évidemment, ce qui s'est passé. Là, les pompiers, oui. Je sais que ce n'est pas les pompiers, c'est des services de prévention aussi.
Pompiers de Montréal se sont dissociés.
Oui, c'est
autres.
Ça, c'est pour ça que je fais attention. Parce que effectivement pour leur réputation, c'est pas très bon, leur image.
Mais il y a des gens qui défendent ça, puis jusqu'à quand, Jérôme? Jusqu'à temps que ça tombe dans leur histoire, eux autres. Ou là, ils vont sortir dans les médias en disant que c'est d'or, ben, atroce qui leur arrive. Mais pendant que ça ne les touche pas, ils disent ben, c'est tout à fait normal. T'sais, je pense que quand on nous enlève un petit brin de liberté quelque part, si vous n'êtes pas outré de ça, ben, vous êtes aussi coupable que les gens qui nous l'enlèvent. Puis le jour où ça tombera sur vous, je souhaite juste qu'il y ait des gens qui soient là pour vous défendre. Il y a des gens qui ridiculisent l'affaire de Mario Pelcha, là, qui n'est pas capable de chanter puis de donner
un
concert
chez
eux. Mais
regarde, tu vois, c'est un autre bon exemple qu'on a eu récemment.
Un autre article dans Libre Média.
Il y a des gens qui tirent une jouissance malsaine de ces histoires-là, c'est-à-dire c'est comme s'ils se réjouissaient un peu du malheur des autres.
Ouais.
C'est tout à fait malsain. Pourquoi se réjouir d'empêcher des gens d'être heureux sur une terrasse et toi, t'es d'accord avec ça? Puis on a bien fait des sorties. Tu sais, pourquoi? Il y a quelque chose qui est malsain, non?
T'sais, moi, Mario Pelcha, je m'en fous. C'est peut-être un super de bon gars, je ne l'ai jamais rencontré, mais son histoire me touche parce que ça décrit qu'est-ce qui se passe avec le Québec actuel.
Ben, c'est ça, ben oui.
C'est que lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de faire un show chez eux.
Chez lui, en plus.
Chez eux, là. Il a un permis d'alcool et tout ça, tout est correct, tout est legit, mais on lui permet pas de faire le genre de spectacle qu'il veut faire dû à certains règlements dans la réglementation. C'est tellement niaiseux. Pourquoi on l'empêche de faire ça?
Et pourquoi on n'est pas intervenu? C'est sûr que le premier ministre a eu vent de ça.
Ben oui.
L'histoire de Mario Pelcha. Il est très connu, ce gars-là. Ben, beaucoup plus que je pensais, d'ailleurs. C'est une vedette. Bon, on savait que c'était une vedette, mais il est très, très connu, finalement. Donc, c'est impossible que le gouvernement n'ait pas reçu l'information que, bon, ça circulait sur les réseaux sociaux, puis qu'il y avait des entrevues à radio, etc. Éric Duhem a pris parti pour lui. Donc, on aurait pu avoir une intervention, un coup de téléphone pour dire « assouplissez le règlement, faites quelque chose ». Mais non. On dirait qu'il y a comme une volonté, finalement, un peu de laisser ce système en place. T'sais, comme on le voit aussi avec le Grand Prix. Il y a quelque chose d'intentionnel, finalement, dans la multiplication des obstacles et des interdits bureaucratiques. Ouais. Sinon, il se passerait quelque chose au niveau politique. Valérie Plante, c'est tout à fait hypocrite là, quand elle nous dit c'est un problème de communication, la ville est dans un état de décrépitude absolue. Il n'y a rien qui a été fait pour que le Grand Prix soit un succès cette année. Là. Évidemment que par une sorte de laisser-faire, c'est subtil, mais on met... C'est de l'obstruction. On a fait de l'obstruction à un Grand Prix qui serait un succès. Puis on a vu aussi les ratés là, avec le concert de Pitbull, tout ça. Puis c'est pas digne d'une métropole comme Montréal qui prétend être à la hauteur de peut-être des Londres et des Paris. Évidemment, on n'est pas là du tout. Là. Mais... Non,
mais j'ai hâte que ça change un peu. Peut-être, je sais pas, peut-être que tu es plus positif que moi, mais je regarde les maires du Québec actuels, puis je me dis, on est condamné à avoir tout le temps des gens qui nous tirent par le bas plutôt que des gens qui nous tirent par le haut.
Oui.
C'est tout le temps, on vous dit ce que vous voulez entendre, on vote pour vous, puis après ça, ben, on va faire ce qu'on veut pendant 4 ans. C'est d'une tristesse ce qui arrive.
Le municipal a vraiment été investi par... des maires qui sont très idéologiques dans leur approche.
Est-ce que ça va revirer, ça, à un moment donné, peut-être un maire plus centriste ou peut-être au niveau de droite économique? Ça se peut-tu encore? Tu sais, moi, la droite ou la gauche, je m'en sacre un peu, mais j'aime bien, c'est pour mon portefeuille, j'aime bien la droite économique, là, pour les gouvernements qui sont en place, que ce soit le gouvernement municipal, provincial ou fédéral. Là, au fédéral, on voit que le prochain premier ministre du Québec, du Canada, ça va être un gars de centre-droit au niveau économique. Pour le reste, ben là, je vous laisse en juger. Au Québec, y a-t-il quelqu'un qui s'aligne à devenir premier ministre ou première ministre qui va être de centre-droit économique? Non. On va rester là-dedans pendant un certain temps.
Oui. Les services, ben on le sait, sont pas bons. Donc, on paye un peu dans le vide, là. C'est une machine, tu sais, qui s'auto-justifie, là. Puis on l'a vu aussi avec l'agence de santé, la nouvelle agence, comment on l'appelle, là, Santé Québec, c'est ça? Oui. Donc, une énième, métastase bureaucratique, j'ai envie de dire, qui va régler des problèmes à l'interne. Puis, tu sais, on crée des... Tu sais, c'est une machine qui s'auto-génère là, à l'infini. Là, tu sais, c'est quelqu'un qui pense vraiment que Santé Québec va révolutionner le système de santé au Québec. Tu sais, c'est quelqu'un qui pense ça pour vrai au Québec, là, qui est sincère. Là.
On vit d'espoir. Christian Dubé, moi, ce qu'on me raconte à l'intérieur des murs, c'est que Christian Dubé travaille extrêmement fort, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sa santé, des fois, est hypothéquée en raison du fait qu'il fait de longues heures. Là, il a mis des gens en place dans l'espoir que ça change les choses. Est-ce que ça va changer? On va voir ça dans un an, deux ans, trois ans, peut-être. Mais ça fait combien de décennies qu'on nous promet des changements en santé? On envoie plus d'un milliard de dollars chaque semaine là-bas, puis ils nous disent que c'est pas assez. On vient de mettre 50 milliards. Là. Les hôpitaux à Québec, là, ils veulent lutter contre les gaz à effet de serre. On met 50 millions de dollars. Moi, je me mets à la place de l'auditeur là, qui apprend ça. Là. Marceau est en train de me dire qu'on vient de mettre 50 millions de dollars pour lutter contre les gaz à effet de serre qu'on émet avec les hôpitaux. Puis moi, ben, ça fait deux ans et demi que j'attends pour ma chirurgie pour
le
remplacement du genou. Là.
À quel point c'est anti-humaniste. Non, mais je sais pas si vous réalisez le message aussi derrière ça. C'est-à-dire, la priorité, là, c'est pas le patient, c'est l'environnement. Là. C'est quoi le message? Quand tu es le système de la santé, tu peux pas avoir ce genre d'approche-là.
Ça devrait être le patient. Puis au Canada,
C'est le goéland avant le patient.
Oui. Oh, entièrement d'accord avec toi.
Non, mais c'est fou raide, là.
Mais au Canada, le Québec, on est les premiers au Canada pour ce qui est des gaz à effet de serre. On est les meilleurs, en fait. C'est nous qui en émettons le moins. Puis là, bon, on se concentre là-dessus. Puis ce qui est particulier, Jérôme Blanchet-Gravel, c'est que quand on passe des sondages, on leur demande c'est quoi leur priorité, l'environnement, ça sort jamais premier. C'est tout le temps vers la fin. Le premier, c'est de manger, de se loger, mais puis d'avoir un bon système de santé, bien entendu. L'environnement, c'est en dernier. Moi, je pense qu'on peut travailler sur tous les fronts, mais en premier, pour ce qui est du système de santé, comme tu le dis, faut se concentrer sur le patient. Mais on dirait que tout le monde écoute ça.
Non, mais c'est délirant.
Sont en santé, on écoute ça. Ils ont décidé ça. OK, ben c'est ça. On va se concentrer sur les gaz à effet de serre.
C'est tellement...
Puis le gars puis la fille qui est dans son char dit « Hey, ça fait deux ans et demi que je veux retourner au travail. Moi, je suis pas capable de marcher. Remplacez-moi-les le genou. »
Non, mais écoute, c'est quasiment une... Je veux dire, c'est anti-humaniste. Ça n'a aucun bon sens, là. C'est misanthrope. C'est quoi le message? Puis il y a des gens aussi qui ont besoin de ben, c'est ça, non seulement des prothèses, mais des sortes de systèmes.
Des chirurgies.
Ben, tout ça coûte cher. Puis enfin, bref, ça, c'est vraiment un autre délire incroyable. Il est pas bon, le système de santé, mais c'est pas une grande surprise que ce que je vous apprends aujourd'hui. Là.
C'est qu'on n'est plus capable d'établir nos priorités, puis c'est d'une tristesse. Hey, j'ai vu passer un article sur Libre Média tantôt. Je l'ai regardé rapidement parce que là, je devais réaliser l'entrevue avec toi par la suite, mais les élections européennes, on parle d'un tournant historique. Là. On avait l'impression que la droite allait peut-être faire un petit peu plus de chemin que ça. La droite a fait quand même un bout de chemin.
Ouais,
est-ce qu'on peut considérer ça comme historique?
Je sais pas. Moi, je suis encore sceptique par rapport à un retour, en tout cas une montée de la droite qui s'exprimerait de manière aussi claire. Là, on sait, les élections européennes, on le rappelle aux auditeurs, c'est pour envoyer des députés au Parlement européen à Bruxelles. Donc, c'est sûr, c'est pas les élections qui comptent le plus parce que Parlement européen, les orientations sont pas mal dictées par Bruxelles. Mm-hmm. Puis les députés, dans le fond, ils décident de pas grand-chose. Ils sont putés. Puis dans le fond, ce que font les pays européens, souvent, c'est un peu ce qu'on fait avec le Bloc québécois. C'est-à-dire que tu envoies des gens à Ottawa qui sont contre l'Union européenne. Ben, ça peut. Tu envoies des gens à Bruxelles qui sont contre l'Union européenne. Donc, tu sais, les gens ont tendance à voter pour des partis plus souverainistes. Là, parce que, tu sais, on peut comparer un peu l'Union européenne à la Fédération canadienne. Donc, c'est quand on envoie des députés. D'extrême droite, entre guillemets, au Parlement européen, c'est comme envoyer un peu, puis la comparaison n'est pas, je sais, là, c'est pas parfait, là, mais c'est comme envoyer un déblociste à Ottawa, va dire, nous, on est contre le Canada, mais on est ici pareil. Les pays européens ont tendance à faire ça au Parlement européen, un espèce de vote de contestation. C'est-à-dire, tant qu'avoir des députés là-bas, on va en envoyer qui sont bien, bien critiques de l'Union européenne, parce que c'est sûr, ça, c'est le caractère fait des très centralisateur aussi. Puis l'Union européenne, c'est une grosse machine aussi technocratique. C'est un beau projet au départ, mais c'est devenu, c'est ça, ça s'est emballé, puis c'est devenu une fédération hyper progressiste, hyper... c'est ça, un monstre bureaucratique aussi qui dicte les orientations au peuple sans vraiment les avoir consultés, en gros.
Cette droite-là, en Europe, qu'on n'a pas ici au Canada, tu la décris comment, cette droite-là? Nous, on parle régulièrement de droite économique.
Ouais, ouais,
c'est qu'on veut que les gens décident ce qu'il y a de mieux pour eux, puis on leur laisse leur argent directement dans les poches. Puis le gouvernement, ben, on veut qu'ils rapetissent. C'est ça, la droite économique, là, rapidement.
Oui.
En Europe, c'est une autre droite qu'on n'a pas ici. Tu la décris comment, cette droite-là?
Ben, c'est une bonne question, parce que dans le fond, quand on se tourne vers l'Europe, on réalise qu'on n'a pas tant de droite que ça. T'sais, pour ceux qui pensent que bon, Poiliev serait d'extrême droite, attention, vous n'êtes pas en Europe, là, vous n'êtes pas aux Pays-Bas, etc. Donc, la droite européenne, je te dirais, c'est une droite qui est plus identitaire, donc qui est plus centrée sur vraiment la question de l'identité, c'est-à-dire le peuple français face à l'immigration. C'est beaucoup l'immigration quand même qui va... conditionner, en ce qui va donner l'élan à cette droite-là. Parce qu'on sait, bon, en France, c'est avec la question de l'islamisme, tous les attentats qu'ils ont eu. Donc, c'est vraiment la différence, c'est que la droite européenne est plus identitaire et puis je te dirais qu'elle est plus à droite de manière générale. Sur les questions économiques, ça dépend. Parce que si tu regardes le Rassemblement national là, qui vient de rafler la mise là, aux élections européennes, d'envoyer beaucoup de députés du RN, qui est l'ancien Front national, enfin, qui est le nouveau Front national, c'est un parti qui n'est pas très à droite économiquement. C'est-à-dire, tu as une droite aussi qui est quand même très étatiste en France, par exemple. Okay. Donc, tu as une droite qui va défendre beaucoup ce qu'on appellerait ici le modèle québécois. T'sais, le modèle français, les rentes, tout ça. Puis les Français, on le sait à chaque fois, là, la retraite, là, bon, les Français, c'est des jouisseurs, puis ils veulent pas travailler si longtemps que ça. Finalement, je vous aime beaucoup, amis français, là, mais je vous connais aussi. Là. Donc, tu sais, c'est toujours... les Français, ils veulent un État social généreux. Des impôts, ils en payent, puis ils s'attendent à avoir des vacances, des journées payées. Là. Fait que tu as une droite en France qui défend aussi les travailleurs, leur retraite, leurs conditions, leurs vacances. Puis le système de santé publique et le système d'école aussi public. Donc, c'est pas les mêmes clivages exactement. Là,
mais on revient pour ce qui est de l'immigration.
Une droite à Éric Duhaime, là, excuse-moi, je te coupe, mais ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas.
C'est trop soft.
C'est trop soft, puis c'est trop centré sur l'économie seulement.
Okay, je comprends. Mais est-ce que cette droite-là, anti-immigration, est-ce qu'on pourrait avoir ça au Canada un jour? Ces gens-là se feraient qualifier de racistes à outrance?
Ouais. Ben, un parti qui ressemble le plus à la droite européenne serait peut-être celui de Maxime Bernier, dans le fond, là,
ouais.
Qui s'attaque à la fois à l'immigration de masse, comme on dit, et à des thèmes comme sur l'ingénierie sociale, écologiste, puis tout ça.
Mais Maxime Bernier se fait traiter de raciste. Là.
Oui, oui, bien sûr.
Mais je veux dire, quelqu'un qui est contre l'immigration en 2024 peut être pour l'immigration en 2026, puis contre en 2030. Tout est une question d'absorption des immigrants.
Oui.
Si on est capable de bien les recevoir, puis de bien les loger, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu considères qu'on n'est plus capable de les absorber, puis ces gens-là n'ont pas de place pour se loger, se trouvent pas d'emploi, ben tu vas être contre l'immigration, parce que tu dis, on a reçu assez, il faut essayer de les intégrer, mais tu vas te faire qualifier de raciste.
Oui, ça, c'est des accusations très faciles qui sont venues très souvent.
C'est-tu plus intellectuel là-bas?
Oui,
par rapport à la politique,
oui. Ah oui, beaucoup. Ah ben oui. Puis on le voit en qualité des journaux aussi. Moi, j'aime ça. Moi, je fais du tourisme médiatique. Moi, je suis dans un pays, mettons, je suis un peu fou, là, mais je vais acheter 5-6 journaux. tous les lire, là, tu sais.
Juste... En papier.
Oui, en papier. Puis là, j'achète ça, puis là, je suis au café, puis là, il te dit qu'il y a du stock, là, c'est pas Journal de Montréal. Donc, le Figaro va te coûter peut-être 5 euros, peut-être 7 piastres et demi, écoute, acheter le journal. Mais tu en as quand même pour ton argent. Je te dirais que des correspondants à l'étranger, tout ça, puis du contenu original, tu sais, qui est pas juste repiqué des agences de presse comme l'AFP, puis tout ça. Mais oui, il faut le dire, je connais pas tous les pays européens. Là. Moi, je connais surtout la France puis l'Espagne. Mais le débat est assez élevé. Même au Mexique, en fait, on aurait tendance à penser que c'est un pays, tu sais, une station balnéaire, relax, les gars font du surf, tout ça. Mais non, au Mexique, à Mexico, par exemple, t'as à peu près 20 grands journaux. T'sais, c'est comme si t'avais, je peux imaginer, la palette de journaux quand même. Il y a du choix. Puis c'est une ville de 25 millions, là. Mais tu sais... Quand je critique un peu la médiocrité ambiante au Québec, c'est parce que je parle un peu d'expérience. Là. C'est pas normal que on parle de vaches égarées en Mauricie. Puis on est beaucoup dans les faits divers. Là, qu'il y a des pays plus pauvres que nous, beaucoup plus pauvres que le Québec, que le Canada, qu'il y ait un débat plus élevé. Je trouve ça inquiétant t'sais, pour ouais. notre niveau. Il faut s'élever davantage. Je veux pas dire de devenir... devenir des philosophes grecs, là, mais tu sais, on a une responsabilité d'élever un peu le niveau parce que le Québec est une société riche, que tout est moyen pour être une société intéressante, stimulante, mais qui, par paresse, laisse un peu aller, puis finalement alimente son propre déclin, puis ça donne des scènes comme à Montréal où finalement on se satisfait d'un état de blocage permanent, puis de système pas très bon, mais c'est pas ouais. très grave, puis bon.
Mais par rapport à l'Europe, est-ce qu'on a des politiciens qui sont plus fragiles? C'est juste, écoute, quand Pierre Poilievre avait qualifié Valérie Plante puis Bruno Marchand d'incompétents par rapport au logement, tout le monde broyait, que ce soit au municipal, au provincial, tout le monde trouvait que c'était épouvantable qu'un futur premier ministre dise
ça. C'est comme s'il faisait du Trump, là.
Mais en même temps, quand on sort les bandes sonores des conseils de ville, ils se traitent tous d'incompétents l'un et l'autre. À l'Assemblée nationale, quand ils se parlent de par rapport avec le président, quand ils disent « Bon, ben l'opposition dit telle affaire, c'est des incompétents, ou ils nous ont démontré leur incompétence », ils se traitent tous d'incompétents. Mais là, parce qu'un palier supérieur... dit ben, les maires de ces deux villes-là, puis ils les nomment, c'est des incompétents. La grosse fragilité, alors que quand on écoute des débats en Europe, là,
Non, c'est vrai.
Ils sont faits pas mal plus tough qu'ici, là.
Oui, je te dirais que oui, très clairement, là.
Ils n'ont pas d'armure ici, là. Ils sont pas armés, là.
Non, regarde, tu le vois, avec la loi sur la protection des élus, là, est très symptomatique de ça. Mais c'est vrai, je le remarque souvent, tu sais, juste mes amis français à Paris. Je sais pas que mes amis québécois sont faibles, là. Mais tu sais, ils ont une approche différente. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont plus... Il y a comme une fougue, là, ou un détachement, je sais pas comment dire ça, là, mais... Qui est comme une... Je sais pas, là, tu sais, les gars arrivent, puis tu sais, si on prend l'apéro, on va prendre une bouteille de vin... Les apéros sont costauds, là. T'sais, c'est pas une affaire de ouais, ben là, faudrait que je rentre chez nous. Ma blonde m'a dit qu'elle prenait le char à soir. Mais non, vous comprenez pas. Là. Nous, on prend un apéro à soir. Les bouteilles, on réalisera à la fin de la soirée combien ça a coûté. Mais tu sais, ils exagèrent un peu, là. Mais je sais pas si vous voyez. Ici, on est là. Puis bon, je sais pas. Ma blonde a le char à soir. Moi, j'ai pas un ami français qui va me dire ouais. un truc de même pour rentrer plus tôt. Là. C'est... Enfin, j'ai un peu dans l'anecdote, mais ils sont plus résilients. Puis, je veux pas trop caricaturer, là, mais.
Mais ils sont capables de débattre. T'sais, moi, j'ai déjà embauché des Français.
Ils sont moins susceptibles, en tout cas.
T'sais, j'ai déjà embauché des Français. Puis, ma première expérience d'avoir embauché des Français, je te dirais que des fois, je passais par là quand je leur demandais quelque chose. Là. Parce qu'eux autres, tu peux leur demander quelque chose, mais s'ils te demandent pourquoi, réponds à leurs questions. OK, mais pourquoi je devrais faire ça de telle façon? Réponds, parce qu'ils vont constamment revenir, tu sais. C'est des gens qui sont plus habitués à débattre, tandis que nous autres, on est comme plus habitués à écouter, ce qui me fatigue un peu. Mais ce que je constate, puis on en parlera justement des amendes qu'on peut avoir si on insulte un politicien, là. Excellente ministre André Laforêt d'avoir décidé ça, on la salue. Mais j'ai l'impression que nos politiciens sont pas armés pour devenir maire ou mairesse.
Non.
Ils sont pas armés pour devenir député ou encore premier ministre. Premier ministre qui est extrêmement fragile par rapport à la critique au Québec. Extrêmement fragile.
Même Legault, ouais, tu trouves?
Ben, vraiment. Puis on l'a vu pendant la pandémie. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, la fatigue, il devait être éreinté, là. Mais souvent, quand il se rend compte que la majorité des gens sont pas d'accord avec lui, il est fâché de ça, puis il boude.
Oui, ouais, c'est vrai.
Puis,
hein?
Il donne moins d'entrevues. Puis là, il va peut-être parler au 98.5, mais les autres stations crevaient de faim. Je ne vous parlerai pas à vous autres. T'sais. On est fragile par rapport aux politiciens mm-hmm. européens, puis peut-être même les politiciens américains, mexicains, je connais peut-être un peu moins, mais sont fait, j'ai l'impression qu'ils sont faits plus forts. Nous autres, on dirait que c'est de la mousse de bas.
Oui, oui, mais j'observais ça, mais en fait, dans tous les pays où...
C'est André Laforêt qui dit, ben là, pour le harcèlement, quand vous harcelez nos politiciens, ça peut aller jusqu'à 1500...
Ça, c'est très dangereux en passant.
1500 $ d'amende. Oui, mais c'est parce que c'est déjà dans le code criminel. T'as pas le droit d'harceler personne.
Non, c'est ça. Mais ça, c'est une dérive véritable. Là. C'est-à-dire le Parlement et puis les salles de conseils municipaux et tout ça, c'est pas des safe space, là. Je sais pas si vous comprenez l'idée. Là, on est en train d'amener l'idée que la délibération, puis le débat, puis le clash, ça crée ce qu'on appelle des climats toxiques. Donc, est-ce que la démocratie serait pas un peu toxique parce qu'elle permet à des gens, bon, un peu colorés, de s'exprimer, des fois de manière, effectivement, vulgaire, puis tout ça? Mais c'est un dérapage dangereux. D'ailleurs, je suis content parce qu'il y a des gens, quand même, des syndicats qui ont dénoncé ça. La loi a été un peu amendée. On parle de la nouvelle loi sur la protection des élus qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale avec quelques modifications. Mais le message qu'on envoie, c'est débattre, ça crée de l'anxiété. Parce que nos élus sont trop faibles. Ouais. Donc là, pour protéger des élus qui, comme tu dis, ne sont pas armés pour occuper leur propre poste, on va pénaliser la population en réduisant un petit peu la liberté d'expression. C'est un des dérapages, tant qu'à moi, les plus importants, les plus graves depuis la pandémie, avec la loi aussi sur les catastrophes naturelles là, qui pourrait potentiellement justifier la suspension de certains droits advenant des catastrophes naturelles comme des glissements de terrain. Je pense que c'est la loi 50. Ça, c'est néfaste. Là, vraiment, le basculement, là, vous voyez, la démocratie, ça crée des climats toxiques. Donc, il faudrait baliser un peu plus la démocratie, mettre plus de règles pour que lui, il ferme sa gueule à maison. Je comprends que, là, que tout le monde n'est pas super brillant. Puis dans les conseils municipaux, j'ai déjà cité à certains d'entre eux, c'est vrai que des fois, ça brasse. Bon, aux Îles-de-la-Madeleine, ça a dû brasser beaucoup récemment avec le code QR. Mais excusez-moi, museler des citoyens, quand même bien que le gars t'aurait pas vous voyé, là.
Ça peut être un exemple aussi simple qu'un citoyen qui est là à tous les conseils de ville. Mettons qu'il en fait 12 par année. Il va là 12 fois par année, puis à chaque fois, il traite Bruno Marchand d'incompétent par rapport à la décision qu'il a prise. Ben là, c'est une insulte. Deuxième mois, il se représente. Bruno Marchand, c'est un incompétent. La piste cyclable, le dossier, c'est toujours pas réglé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est incompétent. Monsieur, arrêtez. OK, merci, on vous a entendu. Ben, troisième mois, ben là, il le retraite encore d'incompétent parce que le dossier est toujours pas réglé. Pouf, une amende de 1 500 $. Eux, ils vont considérer que ce serait du harcèlement, ça. C'est inacceptable que le provincial ait embarqué là-dedans.
Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est un... Ça témoigne d'une érosion de la conception même de... La société libérale et démocratique, dans tout ce qu'on décrit libre média depuis la pandémie, là, c'est-à-dire graduellement, on réduit un petit peu l'espace de la liberté d'expression, puis on la réduit toujours un petit peu plus. Vraiment, c'est subtil.
T'as-tu l'impression qu'il y a juste nous autres qui voyons ça aller?
C'est comme un noyau dans la population.
Parce que les auditeurs qui peuvent nous entendre, là, puis les auditeurs disent, ben voyons donc, c'est pas si pire que ça. Là. C'est juste des amendes pour des insultes sur des échevins municipaux. Oui, mais c'est parce que le jour où toi, tu diras à un premier ministre qui est incompétent sur Facebook, puis tu recevras une amende.
Ça, c'est le régime chinois. Là.
Tu vas vouloir qu'on soit là pour toi, pour te défendre aussi. Ouais, mais OK, ça peut aller jusque-là. Ben. Un jour, mais ça
c'est un précédent.
C'est ça.
C'est-à-dire, on monte l'échafaudage. Là, c'est une pierre à la fois. Là. Donc, il faut toujours voir le portrait d'ensemble. C'est-à-dire, mettons qu'il y avait juste cette loi-là qui aurait été passée avant la pandémie. Puis, ça s'inscrit dans un climat là, qui est, comme je vous dis, il faut. C'est ça. Il y a une mosaïque là, qui se déploie. Finalement, il faut juste prendre le recul pour la voir. On s'aperçoit que tu as cette loi-là. Puis là, au fédéral, tu as la loi. Qui, au nom de la protection des enfants, va donner des pouvoirs extraordinaires au CRTC. Donc, tu sais, quand tu te mets à faire la liste, en fait, de tout ce qu'on a vu, la justification de la loi sur les mesures d'urgence à Ottawa, bon, là, les gens vont dire qu'on okay, peut en débattre un peu plus, mais il y a quand même un certain nombre de lois et d'événements qui montrent quand même que depuis la pandémie, on n'est pas tout à fait dans le même régime. Évidemment, on est encore en démocratie libérale avec les institutions parlementaires britanniques, tout ça. Mais les mentalités ont un peu évolué. Puis quand on le voit aux Îles-de-la-Madeleine aussi, tu sais, code QR, puis il y a des gens aussi aux Îles-de-la-Madeleine qui proposent des choses très radicales, comme même suspendre la propriété individuelle puis la propriété unifamiliale. Donc, c'est apparu. On a aussi un article là-dessus de Libre Média. Donc, tu as des gens aux Îles-de-la-Madeleine qui veulent finalement tout mettre en commun, comme dans un régime communiste. C'est fou, là. Donc, quand on met ça tout ensemble, puis on se dit, coudonc, ben oui, il y a une tendance lourde, puis c'est pas, tu sais, il faut pas regarder ça à la pièce, c'est-à-dire il faut regarder le menu là, au complet, puis là, on s'aperçoit que, oui, il y a un courant qu'il faut comme combattre, parce que, je veux dire, il faut protéger nos droits et libertés.
Ouais. Là, mais tu sais, ça demande quand même du courage de devenir un élu municipal ou devenir député au provincial ou devenir ministre.
On dit pas que c'est pas exigeant, c'est pas ça qu'on dit.
Mais à un moment donné, faut que tu saches que quand tu fais ce job-là, ça se peut que tu sois critiqué. Puis si tu ne respectes pas les choses que tu as promises avant d'être élu, puis qu'on s'en rende compte, ça se peut que tu sois encore plus lourdement critiqué. Là, Marchand qui est d'accord avec ça, en disant ouais, c'est vrai que c'est plate pour les élus, on se fait insulter. Mais avec toutes les choses que tu nous as promises, puis que tu n'as pas réalisées, à toutes les fois où il y a un sondage qui passe qui dit hey, il y a 70 à 80 des gens de Québec qui veulent telle affaire, puis toi, tu dis non, moi, c'est pas ça que je veux, puis je veux aller dans cette lignée-là. C'est normal que les gens disent attends un peu, là, c'est pas ça que tu nous avais promis. Là. Nous, on veut ce que tu nous avais promis. Une députée qui a quitté dans Jean Talon, tu sais, a dit. Puis il faut respecter ça. Dis-moi, je quitte pour des raisons familiales. Je veux être avec mes enfants. OK. Le problème, c'est qu'on apprend que elle s'était trouvée une autre job pendant son mandat.
Ah bon?
Puis que là, elle est 5, 6, 7 fois par semaine à la télé, puis des fois, c'est deux fois par jour. Là. Fait que là, tu disais t'es peu.
Ah oui, celle-là. Ouais.
C'était quoi la véritable raison? Parce que nous autres, que tu fasses ça pour tes enfants, on était derrière toi.
On l'entend souvent, ça. Les raisons familiales, c'est rendu, disons,
mais là, c'est parce
passe-partout. Là.
Mais là, on apprend plus tard que c'est parce qu'elle voulait un job de ministre, puis elle pouvait pas le faire. Elle avait pas été choisie pour être ministre. Fait qu'elle a décidé de démissionner. Fait que nous, on s'en va en partiel, ça nous coûte 600 000. D'autres qui disent, ah, mais là, la politique, c'est trop dur, j'ai pas été formé pour ça, une mairesse, entre autres. C'est trop dur, j'ai pas été formé pour ça, je quitte. Ben, t'es peu. On te l'avait pas dit au départ que la pression avec cette job-là était intense. Puis elle quitte. Puis les gens disent, ouais, mais tu sais, la pression était trop intense. Puis quand on dit, ben, c'est des gens qui sont fragiles, là, c'est nous autres les problèmes.
Ben oui, c'est ça. Nous, on est des insensibles.
On est des insensibles.
Finalement, oui, c'est ça. Alors que, mais non, écoute, le poste.
Ça vient avec une pression.
C'est ça. Puis tu sais, on parle pas d'une adversité. Je veux dire, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Là. Vous n'avez pas les décisions que Churchill a dû prendre. Encore là, les gens ils veulent pas qu'on revienne à des exemples trop éloignés de leur réalité. Mais, c'est-à-dire, des fois, on parle de bon un projet, une rue, l'aréna. Il y a des gens qui sont contre l'installation de l'aréna à telle place. Puis bon, ils se font insulter. Puis eux, ils cèdent sous la pression. C'est pas non plus. Tu décides pas du débarquement de Normandie si on le fait si on le fait le 6 juin ou le 10 juin. Là, t'sais, à un moment donné, c'est fou de se replacer quand même, mais c'est quand même important de se replacer un peu temporellement puis géographiquement pour réaliser que t'sais, finalement, nos problèmes sont pas si. On n'a pas des si gros problèmes que ça. Là.
Tellement.
Donc, bon, la pression que vous avez, je comprends, là, mais essayez de relativiser juste un petit peu quand même.
Tu sais, je sais pas si c'est avec toi que je jasais de ça, mais c'est une histoire qui m'a été racontée. Le gars a été en Chine faire un tour, puis il a rencontré des soldats chinois, puis il parlait un peu de politique. Puis les soldats chinois étaient un peu hésitants à parler politique, mais ils sont venus à une discussion sur le communisme versus nous autres. Et on parlait des maires, puis les Chinois, ce qu'ils disaient, c'est que nous, notre système n'est peut-être pas parfait, sauf que quand quelqu'un veut être un maire ou dirigeant d'un endroit, ben, il commence avec des villes de 5000 personnes ou des villages de 5000 personnes. Puis après ça, ben, ça va bien, on va lui confier une ville de 20 000 personnes, de 50 000 personnes, peut-être de 100 000 personnes. Vous autres, puis c'est pas comme ça qu'il se l'est fait expliquer, mais vous autres, n'importe qui peut être premier ministre du Canada. Ça a donné que c'était Justin Trudeau qui venait d'être mis au pouvoir, puis c'était un prof de théâtre. Puis est-ce que votre système est mieux pour ce qui est de vos politiciens? Parce que oui, là, le communisme, il y a plein de mauvaises choses, en fait. 90% à mes yeux, c'est mauvais, le communisme, mais ils ont une façon de faire que nous, on devrait peut-être regarder. Tu sais, les entraîner, ces maires et mairesses-là. leur apprendre à devenir de bons gestionnaires. Pas passer de prof de théâtre à premier ministre du Canada en promettant des déficits. C'est comme ça qu'il a été...
Oui, il y a comme un manque un peu de...
De formation.
De formation, même de hiérarchie, dans le sens où... Est-ce qu'on encourage vraiment les bons...
C'est ça, petite fille ou petit gars, il s'occupait des loisirs, puis là, il se ramasse maire ou mairesse de la ville, puis il se fait insulter, puis il s'écrase.
Mais c'est parce que le Québec est une société aussi qui fait croire un peu à tout le monde, que tout le monde, finalement, tu sais, on est très égalitariste, on le sait plus au Québec, mais tu sais, on est très, très là-dedans. T'sais, c'est-à-dire, il vaut mieux pas être très bon au Québec, dans le fond. C'est mieux être au milieu. Et on fait croire finalement bon à tout le monde qui peuvent exercer. Il faut être un peu réaliste. Tout le monde en fait n'a pas la capacité d'exercer de hautes fonctions.
Oui. Mais ils veulent le faire. Ils veulent le faire. Ils veulent le mandat de 4 ans.
Puis quand ils veulent le faire, ben là c'est ça. Là, ils mettent des lois pour diminuer leur anxiété face aux commentaires injurieux. Et là c'est nous qui allons écoper. Parce que il faut valoriser la l'excellence. C'est quand on déteste le Grand Prix, le Grand Prix de Montréal, puis les Grands Prix en général, c'est quand même ça aussi, c'est l'excellence, c'est-à-dire la compétition. Oui. On valorise plus ça, la compétition, l'excellence, la performance. Parce qu'ils vont dire que c'est des valeurs masculines. C'est mauvais performer. Il faut être égalitaire. Safia Nolin, il faut pas être beau.
Si t'es beau, je t'haïs. Si
c'est de droite. C'est de droite à être beau. Donc...
Wow! OK!
Non, mais on est là-dedans. Dans la haine du Grand Prix, il y a ça. T'sais, c'est la performance, c'est l'excellence, c'est la rigueur, malgré tout, c'est l'ingéniosité, les moteurs. T'sais, il y a quand même quelque chose de fort là-dedans.
Ouais.
Mais non, il ne faut pas. Il y a une société sans podium, la nôtre. Non, il n'y a pas de podium. Là. Tout le monde, c'est la même ligne.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Libre Média, c'est sur Internet. On peut y accéder comment?
Libremedia.com avec un trait d'union. Notre chaîne YouTube aussi. Puis suivez-nous sur Twitter qui est devenu X.
Oui.
X. Donc, je vous dirais Facebook aussi, mais en vertu d'une loi canadienne, notre page Facebook est bloquée au Canada. Ça m'amuse parce que quand je suis au Mexique, je vois notre page Facebook. Quand je suis en France, je vois notre page Facebook. Et là, je rentre au Canada et notre page Facebook n'existe plus. C'est un peu spécial, non?
Les salauds de médias. On va faire une très courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Marceau.
Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, notre invité de ce soir. Là, il va falloir qu'on se parle, toi et moi.
Ah oui?
Ouais. Fauci qui a admis, il y a de ça quelques jours, que les mesures qu'il avait mises en place aux États-Unis pour 330 millions d'Américains, c'est un peu du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en a parlé aux États-Unis grandement dans les médias, que j'ai lu ça sur Libre Média? Puis pour ce qui est de nos quotidiens, nous autres, ils se sont gardés une petite gêne.
Bien spécial. Bon, encore dans le déni, hein, finalement, au Québec, on est dans le déni des excès qui ont été commis durant la pandémie. Mais c'est une nouvelle assez incroyable. Donc, Dr. Fauci, bon, pour le rappeler aux auditeurs, c'est l'équivalent un peu de Dr. Arruda aux États-Unis, mais disons à une autre échelle pas mal. Et M. Fauci a admis tout bonnement, de manière désinvolte, dans ce qu'on appellerait ici une commission parlementaire, que finalement, la distanciation sociale qu'on observait nous-mêmes aussi au Canada, partout, les fameuses flèches dans les Dollarama, tout ça, au Canadian Tire, tout ça, ça venait des États-Unis qui ont forcément influencé beaucoup les autres pays, leur politique sanitaire. Bien, on apprend, et il nous l'avoue tout bonnement, que finalement, ce n'était pas fondé sur des études scientifiques et que ça lui avait en quelque sorte traversé l'esprit que c'était, ça lui apparaissait sur le coup une bonne idée. Et finalement, comme étant un peu victime de son propre succès, il a laissé ça aller, puis il s'est dit, ben peut-être que de toute façon, ça rappelle aux gens qu'il faut se protéger, puis ça a peut-être des vertus, même si c'est pas fondé scientifiquement.
Mais je sais pas s'il se rend compte à quel point il y a eu de l'impact. Peut-être un peu moins d'impact aux États-Unis, ben plus en raison du nombre d'Américains qu'il y avait là, mais j'ai l'impression que c'est au Québec, au Canada, où ça a eu encore plus d'impact, parce que nous, on reste respectait ça à la règle. Les flèches à terre, puis il y a une certaine catégorie de personnes qu'on nommera pas ici, qui, eux autres, les flèches, fallait respecter ça. Puis à partir du moment où on les a enlevées parce que la pandémie était finie, il est encore anxieux par rapport aux flèches qui n'étaient plus là en disant « Je vais croiser des gens, des enfants qui pourraient me transmettre ça. »
C'est
particulier l'impact que Fauci a eu au Québec, puis de savoir qu'il a admis que les mesures étaient pratiquement infondées.
Il a parlé aussi.
En place. Nous autres, on a suivi ça à la lettre à côté, puis qu'on n'en parle pas dans nos médias. Ouais, ça fait dur un peu.
On était trompés, écoute... Puis il parle aussi de la vaccination des enfants dans le même témoignage. Puis là, encore là, allez vérifier, là, c'est pas, on n'invente pas ça. C'est devant une commission, c'est devant le Congrès, finalement, quand même, Fauci, son grand témoignage. Et il remet aussi en question la vaccination des enfants parce qu'il admet aussi la vaccination n'empêchait pas la transmission du virus. Le vaccin, c'était pour soi, mais du point de vue de la transmission, c'est-à-dire de la contagion, ça n'a pas eu d'impact.
Mais c'était enfin, pas comme ça qu'ils nous le vendaient.
Non.
Non.
Si donc, on était trompés collectivement.
Si t'es vacciné puis t'es une infirmière, tu peux vacciner le premier ministre du Québec parce que lui, il accepterait pas du tout de se faire vacciner par une fille qui est pas vaccinée. C'est dangereux.
C'est le baptême. En fait, c'est le vaccin baptême. Hein?
Le vaccin baptême.
Ben, c'est-à-dire, recevoir le vaccin, c'était comme recevoir le baptême. Donc, t'entrais dans la communauté des croyants. Puis si t'étais pas vacciné, t'étais pas baptisé, donc t'étais exclu. Moi, j'ai vu ça comme ça. J'ai fait une maîtrise en sciences des religions aussi, peut-être que bon, ça me donne des idées. mais c'était ça, c'était le vaccin baptême, c'est-à-dire vous n'êtes pas baptisé, vous appartenez pas à notre culte, donc vous êtes exclu de la société. Donc, ça allait très loin. C'est bien spécial, ça, ce qu'on a vécu. Moi, le vaccin, j'en ai reçu, d'ailleurs, deux doses à Mexico, puis nous, là-bas, c'était l'armée qui nous vaccinait. On peut dire ça marchait. Il n'y a pas d'affaire de « assieds-toi 15 minutes, voir si tu vas t'évanouir. » Quand l'armée de vaccine m'a dit « ça y va au toast », c'est efficace. Puis en plus, c'est les batchs d'AstraZeneca que le Canada avait droppé au Mexique parce que c'était pas des très bonnes batchs.
OK.
Donc nous, on a reçu ça.
On vous a
très chanceux.
On vous a repassé notre scrap.
Exactement. Mais moi, je l'ai pris parce que j'avais besoin de voyager. Parce que vous savez, on ne peut pas rentrer dans un pays si on n'est pas vacciné. Puis moi, je ne voulais pas non plus être confiné à Mexico.
Mais la gêne des médias québécois de ne pas parler de l'affaire Fauci actuellement, qui admet que certaines mesures étaient inventées dans sa tête, elle vient d'où, cette gêne-là? Est-ce que c'est juste parce qu'on considère que les gens veulent passer à d'autres choses ou on est un peu gênés, nous, d'avoir embarqué là-dedans?
Un peu de honte, forcément, enfin, j'espère. Puis un peu d'ignorance encore, puis encore un peu d'enfermement. T'sais, on reste dans notre bulle, puis t'sais, l'information... Québec reste une sorte de bulle un peu imperméable t'sais, aux autres les informations. Certains disent que c'est lié à la langue. Moi, je crois pas trop parce que la langue, finalement, tu sais, il y a tellement de grands journaux francophones.
Mais
comme
Libre
le Média,
vous êtes en français? Un journaliste du Journal de Québec aurait pu tomber sur Libre Média. Un journaliste du Soleil aurait pu tomber sur Libre Média. La presse, Radio-Canada.
Oui. Puis les Québécois savent de plus en plus l'anglais. Mais je pense qu'il y a un refus carrément. Là. C'est-à-dire, beaucoup de gens dans les médias qui s'auto-censurent ou qui finalement ne veulent pas aborder ces sujets-là. Ou de cette manière-là, parce qu'ils savent très bien que ça remet en question le récit que leur propre publication a véhiculé. Donc un peu de gêne, un peu de honte, un peu d'ignorance, un peu de peur, puis de...
OK, mais la transmission des informations, là, dans 150 ans, là, c'est le jour où il arrivera une autre pandémie, elle va se faire comment si nous, on a fait abstraction de tout ça?
Bonne question.
Des erreurs qu'on
tire
qu'on
pas,
a fait?
On ne tire pas les leçons, hein? Ça, c'est inquiétant aussi. Qu'il n'y a pas de commission. Si effectivement il y a une pandémie d'un matin au Québec, on va-tu répéter le même procédé? T'sais, s'il n'y a personne qui soulève ça, là, ben là, quand même, on le fait à Boulevard, là, qui est une station quand même qui a eu pignon sur rue, puis il y a quand même des gens qui se sont conscientisés. Mais c'est inquiétant pour la suite des choses. Là. Mais forcément, ça a duré quand même 2 ans et demi. Là. Puis 2 ans et demi, et tout d'un coup, c'est la guerre en Ukraine qui a mis fin à la pandémie d'abord.
Ça a eu un impact sur notre vie, mais ça a eu un impact sur l'économie canadienne.
Les mentalités.
Oui, sur les mentalités, les chicanes, des Noëls gâchés, des enfants qui ont été scrappés pendant 2 ans.
Beaucoup de gens en mal, puis dans les familles, c'est pas... j'ai l'impression qu'il y a encore des séquelles. Il y a des gens qui se sont pas encore réconciliés dans les familles québécoises. Là, c'est profond, cette affaire-là. Fait que tu sais, on fait comme si tout allait bien. Évidemment, ça va bien aller.
Toutes les insultes qui étaient à l'égard des gens qui remettait en doute les décisions du gouvernement. Moi, je pense que c'est ça qui revient à la tête des journalistes de ces médias-là. C'est, attends un peu, c'est parce qu'on a ri des gens qui disaient
ben oui.
2 mètres, ça n'a pas rapport vraiment. Là.
Oh, ben c'est un peu de honte. Hein. Ils veulent pas admettre, mais d'orgueil peut-être aussi.
Ouais.
Tu sais, quand je regarde des Martineau, des Richard Martineau, tu sais, ils se sont trompés, là. Tu sais, il faut l'admettre un peu, là.
Dan Bigra qui disait « Ceux qui sont pas vaccinés, je les vaccinerai à Sarbacane. » T'es un peu, c'est pas de l'incitation à la violence, ça, quoi.
Hey, c'était limite. Ce qu'on a connu était très limite. Les touristes atteints aussi, ça n'a pas été beau, là. Les gens dans ce qu'on appelle le Sud.
Ouais, les COVIDios.
Mais tu sais, ils ont quand même... interrompu, c'est-à-dire ils ont cancellé les vols quand même vers les destinations soleil pendant 4-5 mois. Puis les destinations soleil, c'est pas juste des plages, là, c'est des pays où le monde habite, où tu peux avoir, comme ma femme par exemple, ça avait été au Canada, mettons que c'est une de ses tantes décède, bien là, parce que le Mexique c'est une destination soleil, on peut pas l'enterrer notre tante Ximena. Non, mais je sais pas si... On a été là, on a empêché des gens d'aller enterrer leurs proches dans d'autres pays.
Une dame en
parce
fin
qu'on
de vie.
Avait peur que Johnny revienne avec la COVID de Varadero.
Souviens-toi, une dame en fin de vie qui avait demandé de rencontrer sa famille avant de mourir. On l'a sorti dans le stationnement en manteau d'hiver pour qu'elle puisse rencontrer sa famille.
Écoute, c'est des scènes...
On a toléré ça, là.
Ça passe à l'histoire comme un des grands... c'est un des grands fiascos.
Mais faut tirer, tu sais.
C'est une faute. Là,
sans trop ramener le passé, faut tirer des leçons du passé. C'est comme ça qu'on va s'améliorer. Puis l'affaire Fauci, le fait qu'on n'en parle pas tant que ça dans les médias au Québec, certains médias le font, tu sais. Radio X l'a fait, moi je le fais. Toi, tu le fais avec Libre Média. C'est important de rappeler que ça, ça a bel et bien existé. Puis qu'il y a des gens qui se réveillent. Ah, ben crime, tu vois, j'avais pas remarqué ça, moi, que Fauci avait admis qu'il y avait des mesures qui étaient infondées puis qui ont été
reprises.
À la lettre au Québec. C'est important de le faire parce qu'il y a plein de médias du Québec qui sont silencieux à ce niveau-là, puis c'est pas du tout à leur avantage. T'sais. Ce qu'ils doivent prôner, c'est la vérité d'abord et avant tout.
Mm-hmm.
Ça a été un plaisir de discuter avec toi, mon ami.
Toujours un plaisir,
pour
ouais.
Les gens qui veulent te lire, avoir accès à tes reportages, puis d'ailleurs, pour ce qui est des élections européennes, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe en Europe actuellement, t'as un bon dossier là, qui circule sur Libre Média. On vous retrouve comment?
Libremedia.com avec un trait d'union. Libre-média.com.
Exact.
Sur X, Libremedia. Et sur YouTube, notre chaîne YouTube, Libremedia.
Jérôme Blanchet-Gravel, merci.